Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Cette semaine, la relation soignant-soigné, une série de Mélanie Deschalotes, réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a ces pages de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux où se raconte l'expérience vécue face à un médecin qui a abusé de son pouvoir, ces moments de faiblesse où l'on s'en remet à celle qui sait, à la merci d'une blouse blanche. Mais il y a aussi ces autres fois où un généraliste débordé a su prendre le temps de nous écouter, et forcément l'hôpital qui va mal et les soignants sous pression. Et enfin, il y a l'envie d'explorer de quoi est faite l'étrange relation qui se tisse entre les malades et celui ou celle qui le soigne. Un lien complexe fait de dépendance, de faiblesse, de savoir, d'empathie, de méfiance, de confiance et surtout d'incertitude. Mais on peut se demander si finalement, on n'est pas les mieux placés pour expliquer aux médecins à quoi ressemble notre maladie, notre douleur et comment on a appris à vivre avec. Alors pour commencer, les personnages. Une psychologue et militante, des patients éducateurs qui ont des voix, de jeunes mourants, des patients qui en savaient plus que leurs médecins, et des psychiatres qui se mettent à la place de leurs patients. Ensuite, le décor. La voix de Jimmy Somerville, San Francisco, l'épidémie du sida, la salpêtrière, des portes marquées d'une pastille rouge, une réunion, des effets secondaires épouvantables et une association à Digne-les-Bains. Aujourd'hui, deuxième épisode, on remonte dans le temps.
SIDA, SIDA, les initiales de syndrome d'immunodéfense déficience acquise. Des initiales qui font peur.
Le nul intérêt des médecins pour une forme rarissime de maladie qui subitement se développe sur un rythme que l'on peut évaluer de 100 fois supérieur.
Aux États-Unis, on parle d'épidémie du siècle, une nouvelle peste, dit-on en Allemagne. En France, on est moins alarmiste.
En termes de phénomène médical, c'est unique. C'est une chance pour les études.
L'été 1984, j'étais à San Francisco et dans la rue, on m'a tendu un sac poubelle en me disant « It's for AIDS, do you have something to give ?» Et là, je ne savais pas ce que c'était que le sida. J'étais chez une amie qui m'a dit « Je vais t'expliquer ce que c'est que le sida, mon frère a le sida. » Et j'ai découvert, par rapport au monde médical, que le sida était un exemple où la première fois, il fallait que les malades s'organisent sans aucun traitement et sans savoir médical. Donc l'impact du sida sur le monde médical, ça a été une révolution. Une révolution dans le rapport à la médecine, une révolution dans le rapport au savoir, puisque c'était la première fois où il fallait soigner des malades sans savoir ce qu'ils avaient. Les malades à l'époque photographiaient eux-mêmes leurs symptômes pour documenter ce qui se passait. Donc c'est évident que la relation médecin-patient avec le sida a connu une de ses plus grandes révolutions, puisque là, il fallait travailler ensemble et les malades étaient des sachants, ou au même niveau, voire en avance, sur la médecine qui devait les traiter.
Les patients prennent le pouvoir par Mélanie Deschalotes et Manouchak Fachaï.
Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres.
On va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie.
Catherine Tourette-Turgis, professeure des universités en sciences de l'éducation, est une ancienne militante très engagée dans la lutte contre le sida. Convaincue que l'expérience de toute maladie est une source de connaissances pour améliorer la qualité des soins, elle décide de créer des cursus universitaires impliquant des patients afin de transformer leur expérience de la maladie en expertise. En 2009, elle fonde l'Université des patients à Paris 6, qui forme et diplôme des patients experts. Les personnes infectées par le sida ont amorcé une révolution dans le monde médical. En obligeant les médecins à construire le soin avec les patients, ils ont initié un changement de posture dans la relation soignant-soigné. Cette démarche des militants de la lutte contre le sida s'est depuis répandue dans d'autres maladies chroniques. Aujourd'hui, des réseaux de patients s'organisent et militent pour s'imposer comme des acteurs de santé. Catherine Tourette-Turgis.
Donc cet été-là, en 1984, c'est comme si j'avais un bouleversement pour ma vie tout entière. C'est-à-dire j'ai senti que le sida, c'était autre chose qu'une lutte pour des médicaments qu'il n'y avait pas. J'ai senti tout de suite que le sida, c'était un phénomène social. J'ai senti qu'il fallait être là parce que le sida, c'était la population donc homosexuelle, et c'était aussi la nécessité de produire tout de suite une réponse contre la stigmatisation. À San Francisco, il y avait autant de personnes vivant, et à l'époque c'était des personnes mourant du sida, que dans la France tout entière. C'est-à-dire que c'était tout d'un coup une ville qui avait été une ville de reconstruction identitaire pour la communauté gay, puisque tous les gens venaient de l'Amérique, et beaucoup de l'Amérique profonde, parce qu'à l'époque, l'homosexualité était punie d'enfermement, de prison, etc. Donc c'était à la fois ce lieu où c'était possible d'exister, et tout d'un coup, ce lieu est devenu un lieu où il fallait s'organiser pour survivre, mais cette fois-ci, pas de la discrimination, mais survivre à une épidémie. Enfin, c'est une expérience tellement forte que, un, on ne peut pas s'en sortir indemne, et deux, c'est une expérience qui fait partie de l'histoire, et que moi, je me suis sentie convoquée par cette histoire.
Le sida, les Américains l'appellent le cancer gay, parce qu'il a touché jusqu'ici une très forte proportion d'homosexuels. C'est devenu une véritable psychose là-bas. Comme on ne sait pas si c'est contagieux, les infirmières refusent de soigner certains malades, des croque-morts refusent d'enterrer, les sauveteurs refusent de faire du bouche-à-bouche.
Donc la question pour moi, c'était à quoi je peux servir, moi ? Et moi, j'avais été formée comme psychosociologue, psychologue praticienne, psychanalyste, et je me suis dit, évidemment que je peux servir à quelque chose. Je peux faire de l'écoute et de l'accompagnement. Ce qu'ils appelaient aux États-Unis, qui était très développé et très peu en France, le counseling, ce qu'on appelle l'accompagnement psychosocial. Donc je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je vais faire. Donc j'ai été volontaire à Aide. Et puis, petit à petit, j'ai inventé des programmes d'accompagnement. Enfin, pour moi, c'était évident qu'il y avait trois épidémies. L'épidémie du virus, l'épidémie des maladies liées au sida et l'épidémie des réactions sociales aux deux premières. Donc moi, je travaillais sur ce que l'OMS appelait la troisième épidémie. Et celle-là nécessitait un engagement. Après ma formation à Aide, comme toute personne qui faisait la formation, il fallait être volontaire et donc aller dans les hôpitaux. Et moi, j'habitais... Aujourd'hui, nous sommes à la Salpêtrière et j'habitais en face la Salpêtrière. Donc, je suis venue dans le service donc, de maladies tropicales de la Salpêtrière et j'ai fait de la visite aux malades. Et les soignants étaient heureux que nous venions pour parler à leurs malades. Parce que même les soignants, certains soignants avaient peur des contaminations, du plateau repas, enfin, d'entrer dans la chambre. Les malades qui avaient le sida, sur la porte des chambres, il y avait des pastilles rouges pour signifier qu'il y avait une maladie extrêmement infectieuse.
Qu'est-ce que vous leur avez apporté concrètement ?
À l'époque, l'écoute était un soin. C'est-à-dire qu'en fait, se mettre en posture d'écoute dans ces années-là, c'était délivrer un soin au sens où il y avait très peu de soins. C'est là que j'avais envie, moi, de dire, et si nous inventions, et d'ailleurs en France, quand j'ai commencé, moi, à faire de l'accompagnement, quand je suis allée à la Pitié-Salpêtrière visiter les premiers malades parce qu'il fallait emmener son divan avec soi, eh bien, nous ne savions pas, jeunes psychologues et psychanalystes de l'époque, comment faire, comment travailler. Moi, j'ai eu l'idée de visiter les malades et je leur ai dit, mais de quoi vous aimeriez parler ? Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Et je me suis aperçue que si on demandait à l'autre qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lui, il amenait les réponses. Donc ce qui était intéressant, c'est que c'était une révolution pour tout le monde, ce sida.
Une dernière prévision de l'Organisation mondiale de la santé témoigne de l'urgence d'une mobilisation internationale.
C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous.
Je vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements.
La progression actuelle en France, c'est d'environ le doublement du nombre de cas tous les 9 mois.
L'impact de la lutte contre le sida, les composantes de la lutte contre le sida, sont pour moi à l'origine de la création de l'Université des patients. Le fait que dans la lutte contre le sida, ça a pris 20 ans de ma vie. J'ai donc connu toutes les strates toutes les périodes de la lutte contre le sida. Au début, accompagner des personnes en fin de vie, mais pas de manière compassionnelle. Les accompagner avec une riposte collective, donc une belle énergie, c'est-à-dire se battre pour que les gens ne meurent pas dans des conditions absolument déplorables. Éviter ce qu'on a appelé à l'époque, et je crois qu'on ne se trompait pas, une forme de génocide organisé. 3. Accompagner, préparer quelqu'un à découvrir qu'il allait être séropositif. Ensuite, accompagner la mise sur le marché des premiers traitements, qui ne fonctionnaient pas si bien que ça. Ensuite, accompagner d'autres traitements meilleurs. Et puis un jour, arriver de traitements puissants, les trithérapies. L'horloge à l'envers.
Les trithérapies ont permis l'an dernier de faire baisser la mortalité en France de 25%.
Ce que certains ont appelé le deuil du deuil. C'est-à-dire tout d'un coup, des personnes qui se disent « Je m'étais préparé à mourir, qu'est-ce que je vais faire ?» Eh bien, je me suis trouvé à devoir faire face à un nouveau paradigme qui était le paradigme du retour à la santé. Et dans le retour à la santé, beaucoup de gens ont dit « Mais moi, j'aimerais que notre expérience, elle serve à d'autres. J'aimerais faire des études, j'aimerais étudier. Nous sommes devenus, militants du sida, des éducateurs de santé, hors pair pour certains d'ailleurs. Nous sommes devenus des communicateurs. Nous savons faire des choses. Comment organiser tout ça ?
On va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. »
C'est-à-dire les malades du sida ont été créatifs en 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire à partir du moment où vous dites, ben, finalement, quand les malades inventent, ils ont de meilleures solutions que ce que le système peut proposer. Mais à partir du moment où les malades ont découvert que quand il y avait un problème, il faisait partie de la solution, c'est évident que quand il y a eu les trithérapies, ben, on n'a pas arrêté notre travail, puisqu'on a vu tout de suite ce que les gens n'arrivent pas à voir en ce moment et qui se passe pourtant dans notre société, qui est l'après-cancer. C'était évident qu'il ne fallait pas laisser les gens tout seuls dans leur retour à la santé. Il fallait accompagner. Je veux dire, on ne se sort pas indemne d'une maladie dont on pouvait parler à personne, dont on ne pouvait pas parler dans sa famille, une maladie où on est discriminé à l'emploi, une maladie qui provoque des rejets d'une ampleur considérable. Donc, il était hors de question de laisser les malades tout seuls avec leur thérapeutique. Et c'est ça qui me manque à l'heure actuelle dans le cancer. C'est-à-dire il manque une lutte qui serait organisée pour améliorer la santé, la médecine, tout ce qui a trait au cancer et qui serait collectif. Nous étions en 2005. Je me suis dit, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la lutte contre le sida. Je me suis dit, et si on transposait le mieux les apports de la lutte contre le sida à d'autres maladies chroniques ? Et donc, je suis venue travailler encore à la Pitié-Salpêtrière en néphrologie. Je crois que le lien pour moi entre le sida et l'université des patients, c'est l'expérience acquise au décours de la maladie, en quoi elle peut servir la collectivité.
Les politiques savaient, ils n'ont rien fait, ils sont assassinés.
Les patients qui viennent travailler dans un service hospitaliers pour faire de l'éducation thérapeutique, ils sont formés à faire de l'éducation thérapeutique. Donc ils deviennent des praticiens de l'éducation thérapeutique, ils interviennent. Ce ne sont pas seulement des patients qui font du témoignage. Moi, je suis d'ailleurs assez réticente par rapport à ce qu'on appelle le patient alibi, c'est-à-dire un patient formé à l'éducation thérapeutique, il est responsable d'ateliers d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce qu'il fait ? On lui confie un groupe de malades et il fait de l'éducation thérapeutique avec ses malades. En fait, on ne peut pas améliorer l'organisation du système de santé ou du système de soins sans travailler avec les patients, sans travailler avec les usagers de ce système de soins. C'est une force de proposition et c'est une force d'amélioration du système de soins.
Une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive.
En psychiatrie aussi, Les patients demandent aux médecins de les considérer comme des co-soignants.
Bonjour.
D'accord.
Digne, juin 2017, rassemblement annuel de l'association Rêve.
Oui, moi, j'entends le professionnel.
Je travaille à l'hôpital de Digne, en fait.
C'est la voie intérieure de Paul Baker. C'est sur les voies, il y a des témoignages.
Le réseau des entendeurs de voix, appelé Rêve, est né aux Pays-Bas en 1988. Le Rêve est une association d'entraide entre personnes atteintes d'hallucinations auditives et visuelles, des patients que la médecine nomme schizophrènes.
C'est ma fille, en fait. Ce qu'elle cherche, c'est peut-être des moyens de pouvoir vivre plus paisiblement avec les voix. Quelqu'un qui entend des voix, on ne sait pas s'il faut lui en parler, s'il ne faut pas lui en parler, comment gérer la chose, est-ce qu'il faut l'ignorer, est-ce qu'il faut... On ne sait pas trop comment agir par rapport à tout ça, comment agir bien, disons.
En 2009, le psychologue Yann de Robert découvre le Rêve et décide de fonder le réseau français sur l'entente de voix. Les patients, mais aussi certains soignants, s'enthousiasment pour le réseau des entendeurs de voix, dont les groupes de parole se développent en France. Le Rêve bouscule les conceptions traditionnelles de la psychiatrie concernant l'entente de voix et l'ensemble des troubles dits psychotiques. Mais surtout, il révolutionne les pratiques thérapeutiques en permettant aux personnes concernées de se réapproprier leur expérience et ainsi de reprendre le pouvoir sur leur vie. Les groupes sont des lieux de soutien et de conseil. Les participants y échangent leurs techniques pour faire face aux voix. En psychiatrie aussi, ce qui se révèle le plus précieux, c'est l'expérience des patients. Aujourd'hui, malgré une forte résistance du monde médical, les entendeurs de voix deviennent des formateurs et consultants en santé mentale. Ils sont aussi des patients experts.
Bonjour, bonjour. Donc je suis Yann de Robert. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas nos associations, donc le Rêve France, le réseau français sur l'entente de voix, est une association loi 1901 à but non lucratif qui s'est donnée comme objectif de favoriser l'intégration sociale des personnes qui entendent des voix. Autrement dit, c'est de sortir en fait les expériences dites psychotiques de la pathologie mentale. Sur la base en fait des études en population générale, on sait que ces expériences sont très largement partagées dans la population et qu'on n'a aucune raison a priori de les considérer comme un signe de maladie. Vous aurez l'occasion, pour les personnes qui s'interrogent sur cette perspective, je pense d'entendre sur ces deux journées des témoignages d'entendeurs de voix qui vont expliquer comment, effectivement, ils ont intégré des voix dans leur vie.
Il y a trois voix. Il y a deux voix masculines et une voix féminine.
Vers 21 ans, ça commence à se manifester par des voix quoi, qui ne me commandent pas quoi, forcément, mais qui sont très persécutrices.
Le fait est que quand on pense qu'on est les seuls à vivre ce qu'on vit, c'est vrai qu'on se sent isolé. En réalité, c'est pas la vérité. On est très nombreux, donc on a des bonnes raisons de se retrouver autour de ces expériences-là.
Alors mes voix, je les ai pu, voilà, mais elles peuvent revenir à tout moment.
Nous, c'est notre vocation en tant que Rêve d'être, de travailler avec les institutions de soins, mais c'est pas forcément évident pour les institutions de soins d'accepter effectivement ces discours critiques. Et donc je trouve qu'il y a énormément de valeur en fait qu'il y ait une implication ici pour nous accueillir du centre hospitalier. Donc merci beaucoup déjà.
Effectivement, le centre hospitalier de Toulédain est heureux de s'associer à cette journée. Participer à ces journées consacrées aux entendeurs de voix.
Mes voix ont toujours été des voix qui étaient horribles, mais maintenant l'horreur, elles me sont utiles parce que je sais pourquoi elles sont là. Du coup, je sais très bien que quand les voix reviennent, c'est que généralement, émotionnellement, il se passe des choses. Et pour moi, c'est plutôt un système d'alarme.
Et du coup, je vais laisser la parole à Nouvelle. Et puis après, on pourra échanger enfin des trois témoignages. Merci. C'est pas évident de témoigner. Voilà.
Très bien. Mais pardon. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Moi, j'ai commencé à entendre des voix fin 2008 ou début 2009. En fait, moi, les voix que j'entends, elles sont à l'extérieur de ma tête.
Moi, ça a commencé quand j'avais 27 ans, donc je travaillais depuis 5 ans déjà. Et donc, jusqu'à aujourd'hui.
Isabelle.
Et moi, ça a commencé un peu du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'au début, j'avais des impressions bizarres, parce que j'avais l'impression d'entendre des choses, mais je comprenais pas pourquoi des gens qui ne me connaissaient pas parler de moi, que ce soit dans la rue, etc. Et j'ai jamais pensé que je pouvais entendre des voix. Je veux dire, à part l'histoire de Jeanne d'Arc et des choses comme ça du Moyen-Âge, moi je savais pas qu'on pouvait entendre des voix. Donc au début j'ai cherché une explication logique et donc je trouvais pas d'explication. Et donc c'est un ami qui m'a aidé et qui m'a dit maintenant t'entends des voix en fait.
J'ai entendu des voix à partir de 17 ans. L'après-midi j'étais dans un parc, il y a mon ami.
Vincent,
qui est là avec tout le monde en train de parler, avec moi en train de parler de ça, et je l'entends d'un seul coup m'insulter tous les noms, traiter de pédé, de bâtard, d'enculé, enfin, et encore c'est ce qui est disable, voilà. Et je me retourne vers lui, de façon très agressive, très violente, mais pourquoi tu me dis ça? Enfin, j'étais très choqué par ce qu'il pouvait me dire. Et là, je vois la tête ahurie de tous mes autres amis, qui me disent, mais Vincent, qu'est-ce qu'il te prend? Il t'a strictement rien dit. La discussion entre mes amis a eu du mal à reprendre tellement j'avais quand même été très virulent. Et d'un seul coup, je réentends mon ami qui m'insulte tous les noms. Mais comme je l'observais, je vois un détail, c'est que ses lèvres ne bougent absolument pas.
Alors écoutez, la première fois, c'était en classe. J'ai écouté attentivement mon école, le cours qu'il y avait dans mon école.
Zélie.
Le professeur qui s'est séparé en deux, en fait. Et puis, il a commencé à entretenir un discours spécialement pour moi, en plus du discours qu'il entretenait pour la classe. Et dans ça, il y avait qu'il fallait que je me mette au travail, je m'intéresse plus aux choses qui m'entourent. Alors moi, je me suis dit, génial, quoi. J'ai envie de ça, j'ai envie de travailler, j'ai envie de... Et donc j'ai un peu fait ça, mais c'était très très mal organisé parce que...
Mais vous n'avez pas eu peur?
Ah si, si, j'ai eu très peur, j'en ai parlé à personne.
Alors comment vous réagissez?
J'ai le sentiment que d'avoir perdu tout un vêtement de moi, ma personnalité, vous voyez, qui n'avait pas encore vécu, mais que c'était tout à fait moi.
Vous avez quel âge?
J'ai 43 ans.
Et vous êtes un entendeur de voix?
Entendeur de voix et halluciné aussi visuel. Je vois mes voix. Petit, c'était pas tant des voix, c'était des visions. Des hallucinations visuelles. Et vers 21 ans, ça commence à se manifester par des voix, quoi.
Cyril.
Je m'en réveillais le matin, on va te tuer, on va te torturer. Et tous les jours, on rebelote pendant 20 ans comme ça.
Vous êtes musicien?
Ah oui, je suis musicien, je fais de la batterie.
Et alors, quand vous jouez, est-ce que vous entendez des voix?
Ah ouais. Ouais, carrément, ouais, même pour de la batterie, ouais, j'entends des voix quand je joue. Ouais.
Par-dessus les percussions?
Ouais.
Qui viennent à l'intérieur de vous?
De l'intérieur.
Est-ce que vous changez votre façon de jouer ou est-ce que vous...
Non, moi quand je joue, surtout devant quelqu'un, j'essaye d'être concentré, quoi.
C'était toujours les trois mêmes voix que j'entendais. Et alors les voix, elles changent un peu au niveau de l'ambiance. Elles s'adaptent à l'ambiance extérieure. Donc si je suis dans un appartement, je vais les entendre comme si elles étaient de l'autre côté du mur, par exemple, ou dans le mur. Et si je suis dans la rue, elles vont s'adapter au bruit environnant, quoi. Donc c'est assez perturbant, parce que moi, je le vis comme un phénomène extérieur, quoi.
Enfin, je me suis posé la question, hein, si j'étais pas habité par le diable ou des trucs comme ça, quoi. Ou même si Dieu ne jouait pas des tours. Parce que, carrément, la lue va loin, quoi. Donc, alors au début, j'y ai cru. Puis j'ai donné rendez-vous à une de mes voix. C'était une jeune fille qui me plaisait, quoi. Elle m'a dit, oui, je viens demain à la place des prêcheurs. Elle est jamais venue. Et là, je me suis rendu compte que je délirais.
Il y a deux voix masculines et une voix féminine.
Vous dites qu'il y a une voix dominante. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Elle parle plus fort que les autres et c'est elle qui parle en premier et c'est très très agressif. C'est des insultes, des sarcasmes et c'est très violent, quoi. Et
aujourd'hui, vous n'entendez plus du tout de voix?
Si, si, moi j'entends des voix encore beaucoup. Alors, mais je suis beaucoup plus équilibrée avec elles. Elles sont gentilles, elles me guident. Des fois, elles se moquent un peu de moi. Vous voyez, bah, par exemple, si je regarde un peu les garçons, quoi, ils me disent d'accord, mais bon, je veux voir, quoi. T'es, qu'est-ce que tu vas faire? Tu regardes et après, des trucs comme ça. Des hurlements, non, j'en entends plus du tout. Ça, c'est vraiment des tout petits trucs de quand j'étais au tout début de mes histoires, quoi. Mais parfois des menaces qui sont encore un peu très très fortes. Qu'elle veut aller me tuer, que j'y arriverai à rien dans ma vie, que j'ai des bêtises terribles, que ma vie privée et le choix de mes expériences de vie, elles vont induire des trucs atroces dans ma famille. En fait, c'est des vraies atteintes à la liberté, vous savez, c'est tout.
Les voix sont récurrentes, j'ai remarqué une nature des voix mauvaises, c'est l'échec, elles ne peuvent pas le supporter. Donc... dans l'hypothèse où la voix reviendrait pendant une dizaine d'années, c'est possible, la même pendant 10 ans, quoi. Il lui suffirait d'un échec vis-à-vis de la victime, donc de l'entendeur de voix, pour pouvoir être faillible par la suite. J'ai eu l'impression de ça, moi. Et l'échec, alors ça c'est terrible, quoi. Ben, c'est qu'on n'a pas résolu une solution à l'intérieur de la schizophrénie, quoi.
Moi, je trouve que c'est un travail essentiel à faire en tant que entendeur de voix. C'est vraiment de répertorier le nom, leur provenance, la façon dont ils s'expriment. Avoir le courage de dire, moi, je trouve que lui, il me méprise. Moi, je trouve que cette voix-là, elle me prend de haut. Moi, je trouve, voyez. Et tout ça, c'est un travail que j'ai fait au tout début. Et ça a été très, 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 très clair pour moi. Au niveau conscient, il y avait un rejet total d'émotions de honte, de sentiments de peur. Ça apparaissait à moi, je voyais que dire ça, ça me fait peur.
Et vous les avez appelées comment, vos voix?
Bon, bah après, là, moi, je les ai nommés. Hein. D'accord. Moi, je peux pas vous le dire. Moi, j'ai entendu des personnes célèbres et tout ça.
Et alors, est-ce que c'est en fonction de vos goûts ?
Il y a aussi des anciens amis qui sont décédés.
Est-ce que vous reconnaissez les voix ?
Des gens très, très précieux pour moi, vous savez, avec lesquels j'ai grandi. De la famille qui est décédée aussi.
Groupe de parole animé par Zélie.
Moi, j'ai posé une question très, très simple et surtout très directe. Je me demandais quelle forme elles avaient ces voix. C'était des femmes, des hommes
Mon fils, il y a 3 ans, il a commencé à entendre des voix. Mais il n'allait pas bien avant, mais il n'avait pas du tout ce phénomène. Et des voix très, très méchantes, très, très dures, mais très ciblées. Son papa venait de mourir, il avait sa grand-mère morte juste après, et il y avait une tante. Donc ces gens-là étaient très négatifs, et en particulier les morts, pour lui, donc, étaient des gens qui mentaient, qui n'étaient pas morts. Donc les voix, c'était l'horreur. C'était le cauchemar, ils se bagarraient avec des invisibles, je dirais. Donc il a été hospitalisé parce que il est arrivé à un stade.
Depuis j'ai l'âge de 20 ans, je consulte un psychiatre et j'ai des médicaments. Parce qu'il m'a diagnostiqué schizophrène de suite. Et alors ça a été très long avant de trouver quelque chose qui me convienne, mais qui marchait pas au fond, puisque les alus partaient pas. Bon, moi je prétends pas que la schizophrénie disparaîtra, puisque il faut, pour que j'ai pouvoir sur les voix et les hallucinations, qu'elles apparaissent, en définitive, quoi. Mais ça aide à mieux vivre le cours du délire par la suite, quoi.
Qu'est-ce que vous disent les psychiatres sur la cause de l'apparition de ces voix ?
Ben moi, j'ai pris quand même pas mal de drogues, mais que c'était pas la cause de ma schizophrénie. Je crois que c'est une nature d'être, hein, de ce fait. Et la cause, non. Ben, justement, on la connaît pas, quoi.
Le premier psychiatre que je vais voir, il m'explique que c'est parce que il y a eu une surcharge de dopamine dans mon cerveau, comme si j'avais pris du LSD, et donc j'ai des hallucinations auditives. Enfin, je veux bien que mon cerveau, il fait tout d'un coup une surcharge de dopamine. Enfin, ça reste à prouver, parce que c'est de la théorie pour l'instant. Moi, j'ai eu l'impression que le psychiatre était, comme il a fait des longues études, qu'il possède une certaine science, j'ai l'impression qu'il était dans une attitude un peu de vouloir montrer sa science un petit peu à ses patients, quoi. Et donc, il était tout content de m'expliquer que, c'était des causes neurologiques et tout ça. Mais moi, ça m'a pas aidé personnellement.
À chaque fois que j'ai eu mon psychiatre, moi, j'avais qu'une question qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que j'ai. Une fois qu'on aura posé mon diagnostic, on va pouvoir me donner le bon traitement et moi, je pourrais reprendre ma vie d'avant. Il y a un fameux jour où je vois mon psychiatre avec mon ami, puisqu'à chaque fois je lui demandais qu'il m'accompagne, je lui pose la fameuse question, alors, voilà, qu'est-ce que j'ai ? Et là, il se retourne pas vers moi, mais il se retourne vers mon ami, il lève le nez de son ordinateur, puis écoutez, voilà, Vincent est schizophrène. On va essayer de le stabiliser, mais ça va être compliqué, parce qu'il est de plus en plus violent. Et il commence à décrire un tableau noir sur moi. Moi qui attendais une solution de diagnostic, je me dis, waouh, je suis foutu, enfin, c'était horrible. Heureusement, Le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon psychologue. Alors, mon psychologue, ça faisait quand même des années qu'il me suivait. Il avait l'habitude d'inciter aux réunions de synthèse qui se passent dans le CMP à mon sujet. Et j'ai le voir, j'ai dit, pour une fois, je veux parler d'autre chose. Voilà, j'ai eu mon diagnostic. Il me dit, ah bon, je dis, oui, voilà, on m'a dit que j'étais schizophrène. Et là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, écoutez, dans ce cas-là, moi, je peux plus rien pour vous. Merci, au revoir.
J'habitais dans le sud à l'époque, j'étais à Nice. Et puis un matin, j'ai dit à ma mère, écoute, moi, je voudrais qu'on aille voir un psychiatre, en fait. C'est vraiment mon choix, vous voyez.
Et alors vous, quand vous consultez le psychiatre, on vous pose une étiquette, vous êtes diagnostiqué, on vous médicamente?
Alors ça, moi, ce que je vous confie, c'est que moi, j'ai eu très très peur des psychiatres. En fait, j'ai une façon d'exprimer les choses qui a besoin d'être accompagnée de beaucoup de gentillesse, vous voyez. Et ils n'ont pas été très méchants, je ne suis pas tombée sur des gens pas gentils, à part quelques-uns. Mais par contre, ils savaient pas entendre ce que j'avais à dire, ils savaient pas comprendre ce que j'avais à dire. Moi, j'avais appelé ça vraiment un manque de savoir-faire, hein, simplement.
Je m'appelle Muriel, je vais sur mes 45 ans. Je vais vous parler de mon passé, mon enfance, mes voix, ce qui m'a emmenée ici devant vous. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. Excusez-moi, je tremble. Hein. J'ai vécu une enfance plus que difficile. J'étais battue et violée par plusieurs membres de la famille. Toute cette horreur a commencé.
Pour moi, c'est important de dire que on retrouve très souvent dans les histoires de vie des personnes qui entendent des voix et qui deviennent patients psychiatriques, donc des gens qui ont vraiment, pour qui les voix posent vraiment problème dans leur parcours, on retrouve très fréquemment des abus sexuels dans l'enfance. On est de l'ordre de 70%, donc c'est énorme.
Yann de Robert, psychologue, fondateur du réseau français des entendeurs de voix.
Pour moi, ça c'est un chiffre qui circule très peu dans les centres de formation professionnelle, donc je le dis à chaque occasion que j'ai. Puis c'est très important d'être conscient de ça, non pas pour plaquer une interprétation toute faite sur quelqu'un, de dire bah, forcément, machin, il est arrivé ça, mais juste de poser la question, en fait, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Donc ça, je trouve que c'est intéressant de l'avoir à l'esprit, de savoir qu'effectivement, par exemple, quand on cherche à établir une relation de confiance, on est souvent face à des personnes qui ont vécu quand même des trucs très difficiles dans la relation. Et que si on n'est pas crédible, en fait, d'être différent, ben, elle n'a aucune raison de nous faire confiance et elle a raison de ne pas nous faire confiance, à mon avis.
Je suis Laurent Jacquemin, je suis donc médecin psychiatre, je suis psychiatre hospitalier. Voilà, et donc... C'est en 2014 que j'ai fait ma première formation donc sur l'entente de voix. Dans cette formation, le plus central, ça a été le jeu de rôle qu'ils m'ont proposé de faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en position d'être quelqu'un qui est un entendeur de voix et qui doit me vendre à un employeur pour lui dire que je suis quelqu'un de bien et que je vais correspondre à l'emploi qu'il me propose. Hein, donc un jeu de rôle. Et donc voilà. Et donc j'ai à ma droite et à ma gauche quelqu'un qui, pendant que je parle avec la personne censée être mon futur employeur, et les personnes à droite et à gauche déversent des tonnes de sottises dans les oreilles en même temps que j'essaye de parler. Et c'était insupportable, ce truc. Mais vraiment insupportable. Et au bout de 5 minutes, j'avais envie de les frapper, quoi. Et là, j'ai un peu compris ce que pouvait être le vécu subjectif de quelqu'un qui entend des voix et pour qui la vie est insupportable. À ce moment-là, on comprend mieux toute cette question de la dissociation psychique, de la difficulté de compréhension, de rassembler ses idées, de suivre une pensée logique, de suivre le fil de sa pensée, etc. Enfin voilà, ça donne un autre regard. Donc avec ce qu'on appelle la psychologie compréhensive, hein, c'est-à-dire effectivement on se met plus à la place de l'autre, quoi. Et donc ça permet également d'orienter les soins. Enfin pour moi, ça vraiment orienter les soins encore plus. Pour essayer de diminuer au maximum ces questions d'enfermement, pour essayer, finalement, dans nos services de psychiatrie, les personnes qui posent problème, ce sont les personnes, les jeunes hommes violents. Ces personnes-là, on en a peur, on les enferme plus, on leur donne plus de médicaments. Et donc, tout le travail va consister à faire passer l'idée... aux soignants et puis aussi à la personne elle-même. Ok, vous vous montrez à nous comme un affreux gus, un gros méchant qui cogne sans prévenir. Moi, je ne peux pas me résoudre à vous regarder que comme ça. Et donc, je vais faire un pari sur le fait qu'il n'est pas que ça. Et ça, c'est une démarche intellectuelle qui va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on appelle la stigmatisation, le fait d'enfermer la personne dans ses symptômes, etc., et qui va provoquer tous ces phénomènes de désespoir dont parlent les entendeurs de voix, qui, quand ils sont regardés comme amas de neurones avec des tonnes de neurotransmetteurs qui fonctionnent pas bien dans leur tête, qui sont regardés que comme ça, comment redonner sens à sa vie, quoi. Et voilà, c'est au maximum comment aller tisser un lien, une relation qui permette à un moment de lâcher cette position d'autorité pour faire de l'autre un partenaire avec lequel on va échanger, quoi.
L'Oreille France, quand j'ai découvert la France, quand j'ai entendu parler Vincent, Régal, je me suis autorisé davantage à parler des voix avec les usagers, bouger les lignes. Bouger les lignes de en tant que professionnel, je parle de ce point de vue-là, bien sûr, c'est que je suis cadre de santé et que je travaille sur des équipes.
Lors de ce grand rassemblement des entendeurs de voix, des soignants ont aussi pris la parole, comme Thierry.
Ça a été quelque chose déjà d'important, parce que mon métier, quand je l'ai appris, c'était d'identifier que des personnes souffraient de ces troubles-là, avaient des hallucinations acoustiques ou verbales, comme on nous dit. Après, d'en parler rapidement au médecin, parce qu'on se sentait fortement impuissant face à ces phénomènes-là, pour que le médecin puisse mettre un traitement et calmer ses voix et revenir à une sorte de normalité, puisque quand ça va pas, qu'on a ce phénomène-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, être comme soi, ne pas entendre de voix, et tout redeviendra normal, ça ira bien. Bien sûr que ce n'était pas le cas, force est de constater que ça ne fonctionne pas à hauteur de nos espérances, même si parfois, excusez-moi de le dire pour certains, je trouve que certains psychotropes ont un petit effet quand même sur...
À la fin de mon parcours en psychiatrie, 80% du temps j'entendais des voix, je ressentais des choses, je voyais des choses, et les 20% qui me restaient, je pensais qu'à ça.
Vincent.
J'avais 7 fois les doses maximum de totalisation de Mr. Marché en neuroleptique qu'on m'a injecté dans les fesses, plus des tas d'autres médicaments. Je faisais plus de 200 kilos. Je passais ma vie dans un fauteuil qui me servait de niche, de mangeoire, de tout. Voilà. J'étais vraiment, je me considérais comme foutu. Je voyais plus personne, à part mon ami qui m'a toujours soutenu. Mes parents, c'était quand même très très compliqué. J'étais toujours en conflit avec mon père. Moi, j'ai fait tas de tentatives de suicide. C'est pas parce que les voix m'ont demandé de me tuer ou quoi que ce soit. C'est parce que la seule chose qu'on proposait, la seule chose qu'on me disait, c'est on va essayer de vous stabiliser. Et à chaque fois, ils disaient, vous êtes stabilisé. C'était quand je faisais un poids énorme, que j'avais la tête de travers, que j'avais le filet de bave qui coulait, que j'avais tous les tics malgré les correcteurs. Si c'est ça la vie qu'on proposait, c'est ça qu'on proposait, d'être stabilisé. Comme perspective d'avenir, j'avais quand même connu beaucoup mieux. Et je préférais me tuer. Puis j'ai été acheter mon arme. Seulement, très rapidement, comme mon ami n'était plus là, chez moi, c'est devenu chez moi un vrai capharnaüm. Mes parents ont été obligés de me reprendre avec eux. Et du coup, j'ai jamais pu me servir réellement de cette arme sur ma tête. Voilà.
Des sujets, par exemple, qui sont tabous en psychiatrie, comme les traitements médicamenteux, c'est un sujet qui revient tout le temps dans les moments d'entendre de voix. Tout le temps. Parce que, en fait, moi, je n'ai encore jamais rencontré une personne dont les médicaments ne limitent pas la vie. C'est que même si, moi je connais des personnes qui se disent satisfaites de leur traitement, à qui leur traitement a apporté des choses, mais dans tous les cas, ça limite leur vie.
Les effets secondaires étaient vraiment pénibles, à savoir d'avoir le sommeil qui est prolongé jusqu'à 12 heures ou 16 heures par jour. Des pertes de mémoire, de perdre sa présence d'esprit, d'être lente.
Isabelle.
Pour réfléchir, pour la vie de tous les jours. Enfin, et puis surtout d'être coupée de ses émotions. Donc moi, j'avais l'impression de devenir une chose vide un peu, quoi. De me vider un peu de ma substance, quoi.
Je me souviens un jour d'un forum à Paris où justement on avait fait venir Will Hall, qui est un ancien patient psychiatrique, un Américain, qui aujourd'hui anime des formations, fait beaucoup de conférences un peu partout dans le monde sur notamment l'arrêt des traitements psychiatriques en minimisant les risques. Moi, j'avais organisé une formation avec lui, un atelier, et je me souviens d'une dame qui était la mère d'une jeune femme diagnostiquée schizophrène avec des traitements neuroleptiques, etc. Cette dame dit, oui, mais moi, je vois bien quand même que quand elle arrête, elle va moins bien. Donc, c'est bien quand même que c'est utile et que ça sert à quelque chose. Et je me souviens, Vincent de Massier a eu l'intervention vraiment la plus pertinente. Il lui a dit, mais du coup, si ça l'aide, à votre avis, pourquoi elle veut arrêter? C'est ça la question. En fait, pour moi, ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Puisque c'est censé être un traitement, que c'est censé soigner, aider les personnes, pourquoi les personnes veulent-elles très majoritairement arrêter leur traitement? Quand on les écoute, on a la réponse. Le seul problème, c'est que très souvent, on ne peut pas les écouter parce qu'on leur a interdit de parler sur le sujet. Alors pourquoi ça? Parce qu'il y a un symptôme, soi-disant, de la schizophrénie, alors moi je ne crois ni à la schizophrénie ni à ses symptômes, mais qui est le déni de la maladie. Donc quelqu'un qui veut arrêter son traitement, c'est parce qu'il n'est pas conscient qu'il est malade. Il n'est pas conscient qu'il est malade parce qu'il est malade. Une fois qu'on a mis en place cette équation-là, je dirais que le problème est réglé. L'industrie pharmaceutique peut dormir sur ses deux oreilles. Ils vont continuer à s'enrichir, sachant que les neuroleptiques aujourd'hui sont des médicaments qui rapportent le plus d'argent à l'industrie pharmaceutique.
J'ai l'impression en fait que les psychiatres, ils ont tellement peur que je sais pas, leurs patients peut-être deviennent violents ou je sais pas. Enfin moi, ça n'a jamais été mon cas, mais que c'est une espèce de sécurité de mettre les gens sous médicaments, parce que voilà, ils n'entendent plus de voix et donc ils sont plus dangereux pour eux-mêmes ou pour la société. Dans le cas où ces gens seraient dangereux, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais été dangereuse ni envers moi-même ni envers les autres.
En fait, avant, je m'autorisais pas du tout à parler, et plus j'entends des témoignages, plus j'ai envie de parler. Le
problème, c'est que plus je parle, plus j'ai des représailles. Pourquoi n'arrive pas à leur dire non, vraiment, vous n'avez pas le droit d'être dans ma tête, vous partez, c'est fini.
De temps en temps, elles font des représailles, d'autres fois, elles n'en font pas. Et c'est dur. Je te comprends.
Bouger les lignes sous cette forme-là, en en parlant, en expliquant, un peu en méditant aussi. Au niveau des professionnels, faire accepter l'idée que des personnes qui ont vécu, qui se sont rétablies de l'entente de voix ou de la paranoïa, puissent devenir des personnes avec une certaine expertise.
Ma mère un jour m'a dit « Écoute Vincent, viens, on va t'amener quelque part ». Elle m'amène dans un endroit où je suis accueilli avec des grands sourires, des gens qui ne parlent même pas français d'ailleurs, à Paris Anne de Robert. On me propose un café et puis on me dit « Tu peux t'asseoir, il y avait un arc de cercle avec plein de chaises ». D'un seul coup, j'entends un mec qui est devant moi qui me dit « Eh oh, toi, t'es pas schizophrène, t'es Vincent, entendeur de voix ». Comment ça, je suis entendeur de voix? Puis là, il m'explique qu'il y a 7 à 14% de la population qui entend des voix. Là, je le regarde tout bizarre, je dis « Comment ça, je suis pas le seul au monde à entendre des voix ?» Parce que même dans mes 15 ans de psychiatrie, je pensais être le seul, voilà. Je pensais être le seul à vivre ça. Et là, j'avais quelqu'un en face de moi qui me dit qu'il était passé par là, puis qu'il était possible de s'en sortir. Il me raconte son parcours, voilà. Et puis après, il y avait des professionnels avec moi que je n'avais pas identifié au début comme étant des professionnels, dont certains de mon CMP, et qui là s'intéressent à mes voix. Voilà, je pouvais enfin parler réellement de mes voix à des gens qui étaient pas curieux mais vraiment intéressés par ce que je pouvais dire. C'est une formation qui a duré 4 jours. Sur ces 4 jours, honnêtement, j'ai peut-être été présent 3 heures. Pour moi, c'était déjà énorme. Et à la fin, il y a Yann qui vient me voir et me dit « Écoute, Vincent, si tu veux, il y a un groupe d'entendeurs à Mont-Saint-Barreul. » C'était à quelques kilomètres de chez moi. J'entends l'information, puis je rentre. Puis se repasse un mois, 2 mois. Et d'un seul coup, je dis à ma mère « Tu sais, là où tu m'as amené, il faut passer. » Ils m'ont dit qu'il y avait un groupe d'entendeurs de voix, je veux y aller. À Mont-Saint-Barreul, c'est 19 kilomètres de chez moi. Alors, pour beaucoup de gens, 19 kilomètres, c'est pas compliqué. Mais moi, déjà, d'avoir été de l'appartement de mes parents jusqu'à cette fameuse réunion, cette fameuse formation, il y avait déjà à l'époque 300 mètres simplement. 300 mètres quand on fait plus de 200 kilos, déjà les douleurs physiques c'est énorme, mais 300 mètres dans un centre-ville pour moi, c'était automatiquement les voix qui s'acharnaient sur moi, l'impossibilité de crier, parce que si je criais, il y avait tous les gens qui allaient vouloir m'abattre, me tuer. Donc mes parents décident de m'amener en voiture là-bas, et là je suis accueilli avec des tas d'autres entendeurs, voilà. Et là on m'explique, ben voilà, que c'est un lieu où on peut parler librement de ses voix sans être jugé, qu'ils acceptent les croyances de tout le monde.
Et c'est mon frère qui m'a parlé d'Interbus, donc j'ai été voir le groupe à Paris. Et en fait, c'est en 2014 que j'ai découvert le livre qui est édité par Interbus. Et en fait, c'est en lisant ce livre que j'ai découvert que on pouvait ne plus avoir peur des voix, que c'était possible en fait. C'est-à-dire que ça, il n'y a aucun psychiatre.
J'ai été voir aussi des thérapies alternatives, des magnétiseurs et tout ça, qui avait une approche plus humaine, je trouvais, qui a fait que j'ai commencé à entrevoir une troisième voie, quoi. C'est-à-dire apprendre à gérer les voix sans en avoir peur et sans médicaments.
Isabelle.
Je me suis rendu compte que les voix étaient bêtes, en fait, parce que c'est vrai que c'est un phénomène assez pénible. Les voix, elles ont le pouvoir qu'on leur donne, en fait. Donc si on a peur d'elles, les voix, elles sont contentes et elles s'installent, en fait. Donc plus on a peur d'elles et plus elles deviennent fortes. Et donc quand j'ai compris que c'était bête à ce point-là, les voix, en fait, j'ai eu beaucoup moins peur. Et donc j'ai commencé à moins entendre les voix aussi. J'ai commencé à leur répondre, parce qu'avant je n'osais pas leur répondre. Donc j'ai commencé à me foutre de leur gueule aussi. Et ensuite je suis tombée amoureuse. Et du jour au lendemain, les voix sont parties complètement, en fait.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'esprit, il avait la capacité de faire apparaître donc des images et de les faire disparaître. L'imagination, en fait, le pouvoir de l'imagination.
Cyril.
Et je me suis servi donc de la source lumineuse et de l'ombre de l'esprit pour pouvoir essayer d'enlever les hallucinations, ce qui s'est avéré efficace. En plaçant mon attention sur la lumière qui produit les images ou l'ombre qui les estompe, je pouvais commencer à gérer mon délire, quoi, à faire disparaître une voix. Ou même à pouvoir me sentir seul.
Quand vous exercez l'ostéopathie, il faut être très concentré.
Oui.
Faut être vraiment sur le corps de la personne.
Oui.
Est-ce que dans ces moments-là, il n'y a plus de place pour les voix?
Ça m'invite toujours à travailler davantage sur moi. Parce que je pense qu'il y a des vrais déficits énergétiques.
Zélie.
J'ai beaucoup de responsabilités en tant que thérapeute. Il ne faut surtout jamais que ça dépasse la limite de ma propre conscience, quoi, pour continuer à proposer des bons soins. C'est vraiment moi qui prends toute la place. C'est un peu cette notion de présence-concentration là dont vous parliez.
Donc en fait, quand vous vous occupez de quelqu'un, vous avez un patient, vous n'entendez plus les voix.
Ben, on peut dire que pas beaucoup, quoi.
Comment vous avez rencontré le réseau des entendeurs de voix?
Ah ben ça, moi je suis au centre de jour de Digne. Donc ça a été facile, quoi, parce qu'ils sont en lien avec eux, quoi. Il y avait une conférence à l'Atrium il y a 2 ans de ça, je crois. J'avais vu Yann, pendant la formation, proposer de parler des voix à voix haute, quoi. Semblait-il que ça les exorcisait, quoi.
De dire tout haut ce qu'elle disait, quoi.
Voilà, peut-être pour s'en détacher. Ou... Mais non, j'ai pas eu d'autres contacts avec d'autres techniques. C'est depuis hier ma question, d'ailleurs, quoi. Ah ouais, ce que j'essaye de faire, c'est parce que d'habitude, elle essaie de prendre ma place, de parler avant moi, avant l'idée que j'ai pour s'en emparer. Ce que j'essayais de faire, oui, c'est de parler avant elle, plutôt, en fait. Je suis pas forcément contre la médication. Elle peut aider contre les crises, c'est sûr, ça. Si j'ai plus mes médicaments, il va falloir que je médite beaucoup plus souvent. Vous voyez ?
Je disais, j'ai demandé conseil à des lamas bouddhistes. Moi, ils m'ont conseillé de leur envoyer de l'amour. Alors qu'on se fait agresser, etc., en fait, il faudra arriver à atteindre un tel niveau de confiance en soi que du coup, on est capable de leur envoyer de l'amour.
Par rapport aux médicaments, est-ce que la rencontre avec le réseau des entendeurs de voix a changé votre pratique ?
Alors oui et non. Oui, parce que pour ceux qui effectivement sont dans une démarche et une décision, hein, là, plusieurs personnes ont parlé de ça, de la nécessité d'une décision, d'essayer de faire autre chose pour soi que de prendre des médicaments, donc utiliser d'autres moyens, faire de la méditation, de la relaxation, des huiles essentielles, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Finalement, au fond, on peut utiliser différentes voies, quoi. Mais
Laurent Jacquemin, psychiatre responsable d'un secteur de psychiatrie générale dans le sud de la France.
Le plus important, c'est qu'il y a dans la personne une décision à un moment qui dise, mais oui, j'ai envie que ma vie ne soit pas seulement dépendante de mes médicaments et pour les augmenter ou les diminuer, quoi. C'est quelque chose auquel j'avais été sensible au moment de choisir ma carrière parce que j'avais fait quelques remplacements dans les cliniques privées. Et là, on voyait des personnes assez suggestibles et qui finalement vivaient au... quand on leur demandait de parler d'elles, elles nous disaient le comprimé bleu, il n'est pas assez fort et le rouge, il est trop fort, quoi. Et je dis, oui, mais votre vie à vous, elle va comment? Alors soudain, ils disaient, mais qu'est-ce de quoi il me parle, celui-là, mon psychiatre habituel, donc pour lequel j'étais remplaçant, il ne me parle jamais de ça, quoi. Voilà. Voilà. Donc... j'avais cette idée-là, mais pour les personnes avec psychose, c'est vrai que la rencontre avec les entendeurs de voix m'a convaincu qu'effectivement, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient capables de faire autre chose que de prendre des médicaments, ou en tout cas de les prendre en essayant d'avoir envie de les diminuer, de réfléchir, de s'observer, d'avoir un regard critique sur soi-même ou demander aux gens autour de soi comment ils nous trouvent, enfin voilà, tous ces moyens-là. Baisser progressivement le traitement. Et non, parce qu'il faut que je sois honnête, il y a un certain nombre de gens qui vont très mal, qui n'arrivent pas à se prendre en main, qui restent dépendants de notre système hospitalier, psychiatrique. Alors, est-ce que c'est nous qui les avons rendus comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça.
Et alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au REV?
Alors, je suis président du REV France. Mon rôle, c'est de...
Vincent.
De faire parler de l'entendre de voix, de pouvoir promouvoir les groupes d'entendre de voix, mais pouvoir aussi promouvoir le message de rêve, de dire que être entendeur de voix, c'est pas spécialement un signe de maladie mentale, voilà. Même s'il y a beaucoup de souffrance, que la solution c'est pas les médicaments, c'est pas que les médicaments. Même si certains entendeurs souhaitent en avoir un, mais, ou en avoir un peu, mais pourquoi pas, ça c'est leur choix. Mais que ça doit pas toute la l'unique solution qu'on nous propose avec les trucs accessoires à côté, mais qu'il y a d'autres choses. Et c'est promouvoir ça. Voilà. Souvent, il y a une phrase qui est là, c'est on n'est pas... les gens qui travaillent en psychiatrie ne sont pas là pour rien. Et je crois que c'est vrai. Ils sont là aussi parce que ça leur parle à eux. Mais qu'eux, ils ont une technique pour faire face, c'est de mettre une blouse, voilà, qu'il soit réel ou virtuel. C'est une blouse. Comme ça, ils ont le malade en face d'eux, puis eux, surtout, ils n'ont rien, parce qu'eux, ils ont le savoir, ils sont surtout pas malades. Mais leur dire qu'eux aussi peuvent faire un parcours de rétablissement, qu'ils peuvent penser et travailler sur leurs émotions aussi, et du coup accompagner les gens différemment, avec d'autres solutions. C'est la première consultation en temps de voix, je l'ai fait avec un psychiatre. qui est partie sur un autre hôpital. Mais je continue là où je reçois des entendeurs de voix. Il y a des infirmiers voilà qui tentent ma compagne parce qu'ils veulent apprendre aussi, ils veulent faire. Parce que voilà, je ne dois pas être le seul et unique à faire ça. Il faut que ça puisse se transmettre aussi pour proposer autre chose.
Vous êtes ce qu'on appelle un père aidant, un patient expert.
Alors, on me dit patient expert, on me dit père aidant, on me dit santé père. Je suis rien de tout ça, je suis en tout moi, avec mon parcours, ce que je peux donner et amener aux autres.
Je pense que là, comme dans tout milieu fermé, le regard extérieur est un regard persécutif. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des gens qui aient le droit d'aller regarder ce qu'on fait quand on est en chambre d'isolement avec nos patients. Je dis bien nos patients, ce sont des patients, ce sont les nôtres, hein, on les a en charge, donc voilà, on a des chars de bienfaisance et de voilà. La présence d'un usager dans ces endroits-là, ben elle serait vraiment vraiment bienvenue, quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire que les équipes soignantes ont peur d'être jugées par les patients experts qui viendraient?
Bien sûr.
Comme s'ils avaient peur à leur tour de devenir persécutés.
Exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, comme si le regard aller remettre en question ma personne, voilà. Alors qu'il s'agit simplement de changer sa pratique, de réfléchir à pourquoi je fais ça. Effectivement, dans le manuel du bon infirmier psychiatrique, il y a marqué qu'il faut faire ça. Est-ce que je suis bien obligé de le faire tout le temps? Est-ce que je peux réfléchir à ce que je fais? Pourquoi je le fais? Quel sens ça? Enfin, voilà.
Comment vous perçoivent les soignants? Toujours bien?
Peut-être que certains ne m'aiment pas. Voilà, mais il y en a certains que j'aime pas aussi, donc je leur laisse le choix. Maintenant, il y a des hôpitaux, parce que je donne des formations avec elle, entre autres, sur le rétablissement, sur l'entente de voix, parce que, voilà, là où sont les gens qui sont en souffrance, c'est quand même majoritairement dans les services de santé. Mais oui, pour changer, il y en a qui sont réticents, il y en a qui nous voient comme des fous, mais c'est du grand n'importe quoi. Comment ça, ils vont parler de leur voix, mais ils vont entretenir un délire. On peut pas bousculer tout d'un seul coup. Enfin, nous, on aimerait bien, voilà. Mais c'est peut-être trop violent pour eux.
Bon, je sois honnête, hein. Je veux dire, dans mes collègues, peu sont ouverts. Ils savent qu'il y a le rassemblement des entendeurs de voix qui a lieu à Digne cette année. Bon, ils sont pas venus, quoi. Voilà, ils sont pas venus. Alors qu'on est c'est pas compliqué. C'est l'hôpital ici, voilà. Sur ce congrès, je trouve que ce qui est, pour moi, très stimulant comme médecin psychiatre, c'est de voir des gens qui ont justement fait ce chemin de rétablissement, de retrouver une capacité à dire je suis quelqu'un, je suis dans la société, et j'assume que j'ai des troubles, que j'ai des trucs bizarres et qu'ont pas forcément énormément d'autres gens. Il y en a, mais pas beaucoup. Et ça, c'est vraiment encourageant parce que c'est vrai que comme médecin psychiatre, on voit arriver les gens qui sont en crise, qui ont des difficultés. Et que, je veux dire, quand on interroge les enquêtes d'opinion sur est-ce que la, entre guillemets, schizophrénie peut guérir, les psychiatres vont répondre toujours non. Parce que, qu'est-ce qu'on connaît? On se rappelle plus des gens qui sont passés chez nous, qui déliraient à fond la caisse. Et puis soudain, ils sont allés mieux. Ensuite, on les a perdus de vue. Alors, on a oublié. Voilà, parce qu'on les voit plus. On a oublié. Donc, on a en tête que les cas difficiles qui reviennent, qui guérissent jamais, etc. On a l'impression que ça, voilà, que ça tourne rond, tout. On a une vision très, très pessimiste, comme ça, du devenir de ces personnes. Alors qu'il y en a beaucoup qui vont arriver à ne plus avoir besoin de nous et, super, quoi. S'ils arrivent à vivre leur vie, qu'ils n'ont plus besoin du système de soins psychiatriques, ils ont retrouvé un certain équilibre, voilà. I want to thank you for the sunshine you gave me, Sonny. I want to thank you for the love you bought my way.
Mais ce que je peux vous assurer maintenant, avec mon expérience, c'est que je suis convaincu que chacun et chacune d'entre nous, par essence, on est plus fort que ses voix. Et quand j'ai compris que j'étais plus fort que ses voix, elles sont parties, j'ai éliminé complètement les mauvaises et les bonnes, je les ai gardées. Mais je peux vous assurer qu'au fond de vous, avez une force qui ne quittera jamais et vous serez toujours plus fort que les vôtres.
C'était Les Patients Prennent le Pouvoir avec Catherine Tourette-Turgis, Yann de Robert, Vincent Demassier, Laurent Jacquemin et les participants au Rassemblement du Rêve. Nos remerciements aux entendeurs de voix et à leurs proches qui nous ont accueillis à Digne. Documentation Ina, Hervé et Vano. Documentation musicale Romain Couturier. Prise de son Gaël Braouzek. Mixage Manuel Couturier. Attaché d'émission Marivonne Abolivier. Productrice coordinatrice Perrine Kervran. Un documentaire de Mélanie Deschalotte et Manouchak Fachaï pour la série documentaire.
LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez militer à ACT UP, bibliographie, lien, nous podcaster pour vos voix ou nous réécouter dans la salle d'attente, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième épisode, soignez la douleur.